Bonjour auditeurs de Radio Gémozo, je suis Lia, je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son, fil rouge de cette émission, inclusion, handicap et éducation populaire, un cocktail comme on les aime. Mais avant d'accueillir mon invité, c'est les actus qui donnent le smile. L'Europe fait gagner 40 000 passes Interrail aux jeunes de 18 ans pour voyager en illimité en train. Les culottes menstruelles réutilisables vont être remboursées par la Sécu pour les moins de 26 ans. Alors c'est cool, mais même quand t'as plus de 26 ans, t'as encore tes règles, hein. Une filiale de Lactalis condamnée pour pollution des eaux dans le Cantal. Et enfin, un nouveau médicament pour traiter le cancer du pancréas doublerait les chances de survie des malades. Merci pour l'info, Joe. Avant d'accueillir mon invité, je sors donc mon premier disque chouchou, Echo Chamber de l'artiste Mamadou Point, je ne sais pas s'il faut dire le point, en collaboration avec The Color Show. Ça a donné ce son, on écoute ça tout de suite.
Going is hard. I say, run, baby, boy, just run, baby, girl, just yeah. Society of the spectacle, empathy is a mayhem. Negritude, my latitude, she's in ranks of the hard sway. Smudge rope, slow dance through mud terrain, the growth phase. Epiphany of the womb will slash the mask up through the rib cage. Pasha core, better days. Under the veil of life, our hidden souls in exchange. We in dire times, tug of war of our mind's dominion. Sovereignty of spirit, to be told from Lennox Ave to Bamako and yearn for wisdom. Ancestors course out, panopticon of my indecision. Ease on down forbidden roads, would it recognize my face? Till it's time for heaven's gates, silk of my father's dream. Crickets of my mother's land, the moonlight ricochets. Was the voyage worth the blur? That question haunts a long verse. So I search for calm first, pray, how do we seize the hurt? So I wear your lineage like an extra lost shirt. I inhale, exhale, cry, man, my palms hurt. No one told us how to rebuke the harm. Fear careens about the film, shake them tremble movements. Gloss the canvas with my pop's blues, chora tuning. So western wrap around this land, hunted us all the bruises. Teardrop this lullaby, only me and the sky can sing in tune with. There's a lot of gaps I gotta mend. This ain't who I was, a baby boy with soiled hands. Guilt's got hair and multiplicities of a growing man. Dance with the archives, a painful yearn, I stretch a hand. To them flying boys and girls, rebel with coals and laughter. Bathe the roots with some oils casted. God ties our allotted time up to white bow ties. Shrink with every clinch, the hues inside you exhales. I just hope you get well. I just hope we get well before I return. God, speak. Yeah. All when the going gets hard. Yeah. I say run, baby, boy, just run, baby, girl, just. Oh, when the going gets hard, I say run, baby, boy, just run, run, baby, girl, just. Where do you go? I say, where do you go? When no place is your home. Where do you go? Where do you go? Where do you... Peace to the world. Peace to everybody, all the children worldwide.
Il est maintenant temps d'accueillir mon invité à s'installer dans le cocon confortable de l'odeur du son. C'est Pierrick Virion qui me rejoint aujourd'hui, responsable pôle culture numérique, coordinateur du pôle ressources handicap 88 au sein de l'association départementale des Francas des Vosges. Pierrick, tu es dans l'émission L'odeur du son, d'où cette première question incontournable. Est-ce que le son a une odeur selon toi ?
Ah, je pense qu'effectivement, le son a une odeur. Le son que l'on parle de musique ou de sonorité ambiante qui nous accompagne généralement dans les Vosges, notamment dans les forêts lorsqu'il pleut, ça a souvent une odeur. Hein. On pense souvent au pétrichor.
Mais oui, voilà.
Oui.
Hier, je suis sortie, j'ai senti cette
Oui,
odeur, mais
c'était très prégnant
le
hier.
terme ne me revenait pas, mais j'aime beaucoup ce mot et cette odeur d'ailleurs. Alors, depuis plus de 10 ans, les Francas des Vosges agissent pour favoriser l'accès aux loisirs des enfants en situation d'handicap dans les accueils collectifs de mineurs en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire. Les Francas des Vosges ont été choisis pour piloter le pôle ressources handicap 88 que tu coordonnes. Donc, c'est le sujet de cette émission. Mais avant ça, petit retour sur l'histoire des Francas. C'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1944 que des hommes et des femmes ont voulu imaginer et construire un monde de paix dans lequel des enfants auraient toute leur place. Pierre François, alors responsable des éclaireurs de France, imagine un grand mouvement d'enfants laïcs dans lequel, au lieu d'être spectateurs immobiles ou simples auditeurs, garçons et filles, tout leur être participe à leur propre éducation. C'est hyper précurseur.
Tout à fait, oui. En fait, ça s'inscrit complètement dans les mouvances d'éducation populaire. Alors, certaines étaient déjà là avant-guerre. Hein. On parle des éclaireurs de France, la Ligue d'enseignement. Mais les Francas sont arrivés au sortir de la guerre avec cette idée de mettre l'enfant au centre des pratiques. Et en ça, ça rejoint notamment des pédagogues connus. Hein. On peut penser notamment à Célestin Freinet, voilà, qui a cette optique-là également.
Tout à fait. L'association départementale des Francas des Vosges, elle a été créée en juillet 1946. Hein, tu m'arrêtes
Tout
si
à
je
fait.
Me trompe. Depuis sa création, elle s'efforce d'être une des forces vives de l'éducation populaire sur le département des Vosges à travers la défense de son projet qui met l'enfant au centre de ses préoccupations et qui s'interroge sur sa place dans la société. Et ça aussi, c'est quand même vachement précurseur, quoi.
Ouais,
et incroyable.
C'est très important et on essaye d'être complémentaire de l'école en ce sens-là.
Alors justement, j'avais une question là-dessus. L'association donc est reconnue d'utilité publique et c'est une association complémentaire à l'enseignement public. Est-ce que ça peut vraiment rimer éducation populaire et éducation nationale finalement?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on est le parcours de l'enfant, pour ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants, je pense qu'ils ne me contrediront pas, ils ne s'arrêtent pas au moment où on franchit les portes de l'école et au moment où on en sort. En réalité, la journée de l'enfant est rythmée par un certain nombre de temps qui se déroule tout au long de cette journée, qui va du réveil au coucher. Et même si l'école est structurante durant ce temps-là, en réalité, on a un certain nombre d'autres temps qui, eux, sont tout à fait intéressants dans lesquels il est tout à fait intéressant d'intervenir, notamment quand on parle d'éducation populaire, parce que si je prends un cas, par exemple, celui du temps méridien, la cantine, le fait de bien manger, ben, en soi, c'est de l'éducation, puisque tous les enfants n'ont pas le même accès à l'alimentation au sein de leur famille, pour des raisons diverses et variées, et ben, le moment de cantine est un moment aussi de découverte, où on apprend, au-delà de manger, qu'est-ce que ça induit de manger équilibré, est-ce qu'on peut s'ouvrir à d'autres cultures, est-ce qu'on peut s'ouvrir à d'autres aliments, et puis on a aussi des moments, on dit souvent qu'on est dans des accueils collectifs de mineurs, mais on oublie souvent qu'ils sont dits à portée éducative.
Oui.
Le sens de ces temps-là, c'est aussi de découvrir des choses en lien soit avec l'école, soit complètement en dehors, par une pédagogie qui est souvent plus active à l'école, même si les choses vont dans d'autres sens aujourd'hui. On a traditionnellement l'idée de l'écolier qui est assis sur sa chaise. Bon, c'est plus forcément le cas systématiquement aujourd'hui. Mais avec l'éducation populaire, on a l'ambition de l'amener au contact des habitants de sa commune, de l'amener à découvrir des associations, d'œuvrer pour le bien commun, en clair, de faire société.
Mais l'éducation nationale, dans son organisation, dans sa structure, elle est quand même mise à mal.
L'éducation nationale, il y a un certain nombre de problématiques qui la traversent. Et puis l'articulation avec l'éducation populaire, elle est historique. Elle s'est toujours passée. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir, en 2026, comment est-ce qu'on réinvente peut-être cette articulation qui, il faut le dire quand même, va dans le bon sens dans le département des Vosges, parce qu'on a des liens quand même assez étroits avec soit l'éducation nationale, soit le service départemental jeunesse et sport.
Oui, ça c'est super. Il y a beaucoup d'évolution autour de la jeunesse et de son environnement, de leurs conditions à ces jeunes de vie, de leurs problématiques aussi. Est-ce que ça ne va pas trop vite aujourd'hui pour que l'on ait le temps de proposer de nouvelles ressources, de nouvelles réponses?
Dans tous les cas, que l'on parle d'éducation populaire ou d'autres choses, le schéma est un petit peu le même. De nouvelles pratiques émergent au sein de la société et il y a toujours un temps de latence de la part des
Oui.
acteurs, des institutions pour pouvoir s'adapter. L'avantage de l'éducation populaire sur ça, c'est qu'on a une souplesse plus importante que les institutions dites conventionnelles d'État, dans le sens où on peut investir plus rapidement les champs d'action que nous on trouve pertinents. L'exemple que je peux donner sur ça, c'est par exemple dans le dossier du numérique, on a un certain nombre de nouvelles technologies, ça n'aura pas échappé aux auditeurs qui arrivent en ce moment, au premier rang desquels l'intelligence artificielle. Bon, alors très rapidement, il a fallu s'emparer de ces sujets-là parce qu'on se rend compte que les enfants, ils ont une utilisation de cette intelligence artificielle qui, au début, ils peinent un petit peu à l'admettre, mais très rapidement, ils ont admis un petit peu, comme nous à l'époque, on allait sur Wikipédia sans le dire au prof, eux, ils utilisent ChatGPT parfois pour faire les devoirs. Au début, bien sûr, c'est un tabou, mais quand il y a un lien de confiance qui s'établit entre animateur et enfant, en réalité, on peut travailler sur ces thématiques-là. Et l'idée, c'est pas de diaboliser les choses en étant réprobateur, mais bien au contraire, d'accompagner ce changement de pratique et de comprendre à la fois l'outil en tant que tel, vers quoi il peut nous amener, mais aussi de savoir, ok, mais qu'est-ce que ça induit d'utiliser cet outil-là et quelles conséquences à la fois pour la société et pour moi personnellement.
Oui, bah c'est une très bonne interrogation. D'ailleurs, c'est le sujet que l'on évoque au sein d'un lycée dans lequel on intervient en ce moment même, l'IA et les réseaux sociaux. J'imagine que ça aussi, c'est quelque chose sur lesquels on s'interroge.
Oui, c'est un point essentiel, puisque forcément, les réseaux sociaux sont là depuis longtemps, mais ils ont connu une certaine mutation, notamment avec l'arrivée de TikTok. Il y a une double problématique qui est induite par les réseaux sociaux. La première, c'est la question de l'identité numérique. Okay, je suis sur les réseaux sociaux. Je m'affirme en tant qu'individu sur des plateformes numériques qui ne correspondent pas forcément à la réalité telle qu'elle est décrite, mais bien, on parle beaucoup d'avatar, enfin, on ne parle plus trop d'avatar, on en parlait avant, jadis, mais en tout cas, je pense que ça parlera jadis aux auditeurs les plus... qui ont quelques cheveux gris ou blancs, comme moi. Mais en réalité, il y a un delta entre l'identité que l'on affirme sur Internet, sur les réseaux sociaux, et celle que l'on arbore au quotidien, dans la rue, dans sa famille, etc. C'est rien de nouveau, c'est juste que on se déporte en fait dans ces identités-là. Auparavant, on avait une identité à l'école, on en avait une autre dans sa famille, on en avait une autre dans son groupe d'amis à l'extérieur, par exemple. Donc, c'est juste que ces mutations-là, il faut les prendre en compte, les accompagner et voir comment est-ce que les jeunes, on peut leur faire, les faire s'émanciper vis-à-vis de leurs pratiques, qu'ils comprennent, qu'ils fassent preuve d'esprit critique vis-à-vis de ce qu'ils font. L'autre pan sur le numérique qui convient d'accompagner, c'est la technique en tant que telle, puisque parfois, on a l'impression que les jeunes, ils ont une compréhension fine et une capacité à utiliser les outils numériques fortes. En réalité, ils ont un usage qui est souvent bien maîtrisé sur leurs usages quotidiens, mais lorsque l'on rentre un petit peu plus dans le technique, on se rend compte que là, il y a des lacunes, il y a des carences, et donc du coup, je pense que c'est un des rôles de l'éducation populaire d'investir ces champs-là aussi.
Ouais. Tu n'aurais pas voulu faire sociologue ?
Ah, ça aurait été très intéressant. Je lis beaucoup de sociologie, ça m'intéresse.
Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais vous vous appuyez aussi sur l'outil radio, avec des ateliers pour améliorer, guiser l'esprit critique des jeunes. Il en a bien besoin.
Tout à fait, ouais. On utilise beaucoup la web radio, c'est un outil que moi je trouve formidable parce que ça développe les compétences langagières chez les jeunes, le fait de pouvoir s'exprimer, alors on parle d'éloquence bien naturellement mais bien s'exprimer c'est aussi avoir une construction critique, argumentaire dans sa tête qui est en bonne forme, et ça c'est un point assez important pour les jeunes, d'autant plus qu'aujourd'hui l'école essaye d'aller sur ces champs-là dans le sens où ces compétences langagières se retrouvent dans les oraux qu'on retrouve notamment dans l'épreuve du brevet et puis dans l'épreuve du bac aussi. Et puis notre président de la République, il n'y a pas si longtemps, plaidait pour le retour du théâtre obligatoire pour les jeunes. La radio, en soi, reprend par certains aspects ces éléments-là, de savoir bien s'exprimer à l'oral et d'argumenter sa proposition. L'autre point de la web radio et son côté que je trouve fantastique, c'est tout ce qui est éducation aux médias. Et là, je sais que je prêche une convaincue.
Ah bah, c'est sûr.
puisque, bien évidemment... Aujourd'hui, les médias traditionnels sont battus en brèche par des médias plus actuels. On peut penser à des choses comme Brut, à TikTok, à des YouTubeurs ou ce genre de choses qui font du contenu parfois d'excellente qualité, mais sur lequel il y a toujours un biais, c'est normal. L'objectivité absolue n'existe pas. Le fait de ramener ces éléments-là à l'oreille des jeunes, ça permet aussi d'aiguiser encore une fois l'esprit critique et d'aller dans le sens du projet associatif Franca, d'émanciper les jeunes.
Il y a un gros dispositif qui a été mis en place par la région, et j'imagine peut-être dans d'autres régions aussi, pour l'installation de web radio au sein des établissements scolaires. Et on est bien contents.
Exactement.
Allez, c'est le moment de lancer mon disque chouchou, Gaël Faye, avec ce titre Bye. Tu connais Gaël Faye ?
Je connais Gaël Faye, mais je suis pas un auditeur assidu.
Parce que chaque mot est important, je le grave en italique. Je viens de là où la vie ne tient qu'à une trajectoire d'objets métalliques. Là où la corruption n'est qu'une gangrène métastase. Où on te vole tout, même les points à la fin de tes phrases. L'opinion publique paraît cynique, indifférente. Dénoncer le mal et faire le bien sont deux choses différentes. Hey, je vais pas vous charmer, j'ai le cœur décharné. Depuis que mon peuple est sorti des charniers rouges et de l'île, j'entendrai pas ton chant de guerre à tue-tête. Tu de cette époque où la moitié du globe vit toujours sous tutelle. Avec leurs droits pollués, ils nous en remettent de plus belle. Nous étions déjà des damnés, maintenant nous devenons leur poubelle. Y'en a rabord la coupelle du toujours plus quand tout se fait rare. Ils veulent soigner tous nos problèmes et leur remède c'est du curare. S'ils bousillent nos fusibles pour que l'on vive dans le noir, j'allumerai ma bougie pour lire aux parois de la mémoire. Le monde je trouve ça fade et les saletés ça fallier. Paraît que les peuples ça fan, me disait un frère Baïfal. Ouais ça va, je fais mon temps, jamais mon argent. J'attends, je contemple, donc j'apprends, j'entreprends rien. À vrai dire, je m'en bats les reins. Dehors c'est du blin, y'a du crachin et puis des lois des reins. Je dirai rien, je reste pas, la vie c'est CDD. Il me reste qu'un vieux souvenir comme un cliché de Malik Sidi B. Si c'était à refaire, on viendrait pas refaire les mêmes erreurs, juste frère, on viendrait pas refaire. Depuis tantôt claque ma langue comme un otanto. Vu que la souche retient l'homme, on bouffe que du Monsanto. Réussir, c'est se rater, c'est rapper. Je fais du rap, karaté, à scratcher sur un cerato. C'est bateau tout ce que je dis, donc je finis la bouteille au goulot. Et à la mer, mon frère, j'envoie mes scudis, je brise la coquille. Je mélange le jaune et le blanc, hey, c'est la crise, copine. Les jeunes chaument sur des bancs. Désolé, ce doit être un problème d'emplacement. Mais vu d'ici, je ne sens qu'un système oppressant. On est tous azonnés, assommés. On sera où quand l'heure de nous-mêmes aura sonné? On est tous azonnés, assommés, mais dis-moi, on sera où quand l'heure de nous-mêmes aura sonné?
Sur les ondes de Radio Guémozo avec ce trompettiste et pianiste de talent Guillaume Poncelet qui l'accompagne très régulièrement. Tu connaissais ?
Non, je ne connaissais pas, mais j'ai passé un bon moment.
Ah oui, c'est incroyable. Je crois que ce titre date un petit peu, mais Gaël Faye est un vrai chouchou de Radio Guémozo. On repart sur notre sujet. On estime qu'entre 40 et 60% de parents d'enfants en situation de handicap n'osent même pas franchir la porte d'un centre de loisirs. Le pôle ressources handicap, c'est une volonté nationale et il existe depuis plus d'un an maintenant. Tu me reprendras si je me trompe. Est-ce que c'est entre autres ce type de constat qui donne naissance à cette volonté de prise en charge ?
Oui, tout à fait. C'est une bonne partie du constat. On se rend compte que les enfants en situation de handicap sont plus éloignés que les autres enfants des structures de loisirs éducatives. Et donc, du coup, il convenait à un moment donné de rétablir les choses. Alors, ça pourra s'expliquer, on en parlera, je pense, après, mais par bien des aspects. Et puis, l'idée générale, le constat général, c'est de se dire comment est-ce que l'on adapte au mieux ces espaces dits de droit commun, dits ordinaires, pour qu'ils conviennent à l'ensemble de la population, pour une inclusion réussie.
Bah, on va en parler maintenant. Il vise donc à une prise en charge inclusive des enfants de 0 à 17 ans, hein, ce pôle, en périscolaire ou en centre de loisirs en milieu ordinaire, comme tu appelles ça, enfin comme on appelle ça, mais je trouve ça bizarre ce terme.
C'est le terme, bon, voilà, il est sujet à débat.
Du coup, comment ça se passe ?
Alors, cette prise en charge, elle est à différents niveaux, puisque d'une manière générale, déjà, on a un substrat légal sur lequel tout le monde n'est pas au fait. Alors là, je parle aussi bien des professionnels que des familles, qu'on va dire que monsieur et madame tout le monde. Il faut savoir que la loi de 2005 autorise et même encourage très largement, réaffirme en tout cas, le droit à tous d'accéder aux services publics, y compris lorsque l'on est en situation de handicap. Donc du coup, les centres de loisirs ne font pas exception à cette règle-là.
Heureusement.
Donc ça, c'est un peu le constat de base. Pour ce qui est du reste, il y a parfois une méconnaissance générale au sein de la population de ce qu'est le handicap.
Oui.
Parce que la première image qui vient à tout le monde en tête quand on parle de handicap, c'est la place handicapée avec un petit bonhomme dans un fauteuil.
Oui.
Ça ne recouvre qu'une réalité très, très, très partielle.
Oui.
Du handicap.
Oui.
Donc, il y a aussi un besoin d'informer les personnes sur ce qu'est le handicap et ce que ça induit au quotidien pour les personnes qui ont des troubles, qui sont en situation de handicap. Cette méconnaissance, elle amène parfois à des freins dans l'accueil, puisque lorsque je ne connais pas quelque chose, ben, je peux en avoir peur, ou je peux en tout cas avoir une dose, je vais dire, de fantasme, dans le sens où on imagine peut-être que l'accueil de personnes en situation de handicap est très complexe, ou alors qu'elle va nécessiter beaucoup d'aménagement. Or, c'est pas systématiquement une réalité, puisque il n'y a pas de standardisation du handicap. Chaque handicap est très différent des uns des autres, et même au sein d'un même trouble, même s'il y a un certain nombre de points qui peuvent être identiques, il peut y avoir aussi beaucoup de choses différentes qui sont à prendre en compte dans l'environnement notamment.
Alors peut-être pas trop d'investissement matériel en tout cas, mais beaucoup de moyens humains quand même, j'imagine.
Alors les moyens humains, c'est pas non plus systématique.
Okay.
Parce que l'idée d'une société inclusive, c'est une société qui, on appelle ça une approche sociale du handicap. Vous avez deux approches, basiquement. L'approche médicale, ça va être un médecin qui va vous poser un diagnostic et qui va vous donner un traitement. Évidemment, ça c'est indispensable. Un traitement s'il y a besoin ou des adaptations de matériel. Et puis l'autre approche, c'est l'approche sociale. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Personnellement, je suis pas médecin. Donc je ne vais pas poser un diagnostic. Ce qui m'intéresse, ce sont plutôt les besoins des personnes en situation de handicap. Or, sur ces besoins, s'il y a une prise en charge bien en amont, on peut intervenir et on peut mettre en place un certain nombre de choses au préalable qui permettent le bon accueil d'un enfant. Je peux vous donner un exemple concret. Okay. J'ai accompagné un lieu de professionnels d'accueil d'enfants sur l'ouest des Vosges, où vous avez un enfant qui est en situation de malvoyance et qui, du coup, a des problématiques pour se rendre aux toilettes. Eh bien, du coup, c'est la question de comment est-ce qu'on adapte l'environnement. On parle souvent des accès PMR. Alors, on pense tout le temps à la rampe,
ouais,
mais les accès,
ouais,
PMR, c'est plus, ouais, large que ça. Ça peut être aussi des choses plus visibles, des surfaces texturées, des manières d'apporter de l'aide indirectement aux personnes. Et l'avantage, quand on réfléchit à un environnement plus inclusif, c'est qu'il bénéficie à tout le monde. Si on prend cette histoire de rampe d'accès PMR, c'est pratique pour une personne qui serait en fauteuil roulant. C'est pratique peut-être pour une personne aussi qui a des béquilles, mais c'est pratique pour une personne qui commence à prendre de l'âge et qui a des difficultés,
oui,
à prendre les marches. C'est pratique pour une personne qui a une poussette et qui doit faire quelque chose. C'est pratique pour le livreur qui doit vous livrer 15 tonnes de ramettes de papier à l'entrée de la mairie. Et bien, il est bien content de savoir que l'accès il est PMR et qu'il ne va pas devoir tout porter, mais bien au contraire utiliser son Fenwick ou tout autre moyen à sa disposition pour pouvoir amener la palette de papier dans le hall de la mairie. Donc quand on réfléchit à une société plus inclusive, en réalité, c'est pas quelque chose qui serait hyper ciblé à destination d'un tout petit groupe de personnes.
Oui.
En réalité, l'impact il est beaucoup plus large que ça.
Mais est-ce que ça devrait pas être standardisé justement sur tous les champs en fait, cet accès, parce que au final là on s'oriente vers les structures d'accueil, mais il y a aussi les magasins, il y a aussi les transports en commun. On en parle beaucoup de ça, de ce manque d'accès quoi.
C'est la loi de 2005 en fait, ouais, qui induit que les établissements recevant du public doivent être accessibles. Et l'accessibilité, elle passe par les éléments dont je parlais précédemment. Il y a eu des dérogations qui ont été mises en place en 2015 et qui, du coup, couraient jusqu'en 2025. Aujourd'hui, l'application de la loi de 2005, elle n'est pas pleine, entière, totale. Elle est allée dans le bon sens. Il y a encore du chemin à parcourir. Et ce chemin-là, on essaye, nous, modestement, avec le PRH, d'apporter notre pierre à l'édifice. Quoi.
Bien sûr, mais ça, c'est un sujet national. Quoi.
Tout à fait.
Voilà. Donc, si je comprends bien, vous faites le pont entre les familles et les structures d'accueil pour un accueil le mieux aménagé,
le plus
possible.
Inclusif,
ouais,
possible.
Okay.
Exactement. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va intervenir sur trois champs. Le premier champ, c'est à destination des familles, en les renseignant sur leurs droits, sur ce qui existe autour de chez elles aussi, et puis en prenant un maximum en compte les besoins de l'enfant. Parce que je rappelle que si un enfant a 8 ans, a priori, les parents le connaissent depuis au moins 8 ans. Donc généralement, s'il y a un handicap, ils ont quelques trucs et astuces, ils ont une connaissance assez fine,
ouais,
au quotidien de leur enfant. Et donc ça, c'est une mine d'or en réalité quand il s'agit de faire une inclusion derrière dans un accueil collectif. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est accompagner aussi les professionnels. J'en parlais plus tôt, il y a,
ouais,
parfois une question, il y a des réticences, il y a une méconnaissance. Or, si on vient ajouter de l'information, rassurer les équipes, les outiller aussi, en leur présentant ce qui existe à travers la France, que d'autres associations ont créé ou que l'association départementale des Francas des Vosges a créé aussi. On apporte des outils et une manière de prendre en charge qui peut les aider. Une fois qu'on a rassuré un peu les équipes, généralement, on met les personnes en lien. Et de là, on voit comment les choses peuvent se dérouler. Alors nous, on milite, on va dire, pour une double entrée. La première chose, c'est un accueil de proximité. On le sait, il y a des centres, moi j'appelle ça les bons élèves dans les Vosges, qui accueillent particulièrement bien les jeunes à besoins spécifiques, les jeunes en situation de handicap. Or, quand ça commence à se savoir, bah, on a une stratégie des parents qui se met en place parfois et qui se dit « bon bah je sais que là-bas ça marche bien, je veux inscrire mon enfant dans cet endroit ». Ce qui part d'une intention tout à fait louable, évidemment, c'est une bonne prise en charge des besoins de leur enfant. Or, si on fait ça, on a tendance à respécialiser des lieux qui sont estampillés aux yeux du grand public comme étant le lieu où ça se passe bien.
Ouais.
Et les personnes qui sont moins avancées sur le sujet de l'inclusion, eh ben, elles, au contraire, elles vont avoir peut-être moins d'inscriptions de jeunes en situation de handicap. Donc, on a tendance à plutôt privilégier le centre de proximité. Si vous avez votre enfant et voilà, vous habitez sur, je sais pas moi, Mirecourt, on va pas l'inscrire à Neuchâteau, on va pas l'inscrire à Saint-Dié-des-Vosges, ou à Épinal. Oui. L'idée, c'est plutôt de le mettre au plus proche.
Okay.
Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi la question de l'accueil progressif. Il faut pas occulter que le handicap, ben, parfois, il y a des problématiques liées, par exemple, à une fatigabilité accrue. Au regard des besoins de l'enfant, si on sait que pour lui, une semaine de centre aéré, c'est un peu compliqué du lundi au vendredi parce qu'il y a de la fatigabilité, on va discuter et prendre l'information auprès des parents sur ce qu'eux, ils estiment le mieux pour leur enfant. Donc, s'ils nous disent, c'est vrai qu'une semaine, on n'ose pas trop l'inscrire parce que 5 jours, c'est quand même beaucoup. Nous, c'est vrai qu'on aimerait bien partir sur 3 jours. Et ben, c'est une bonne manière de commencer à travailler ensemble parce qu'on voit si 3 jours, ça fonctionne. Mmh. Si au bout de 3 jours, on se rend compte que l'enfant, ça roule plutôt bien, bah, peut-être qu'on peut monter à 3 jours et demi, 4 jours.
Okay.
OK, 4 jours, c'est trop. On redescend à 3 jours et demi et ainsi de suite. Et on calibre l'offre au mieux. Donc ça, c'est un travail, j'ai envie de dire, de fourmi, d'artisan. Oui. On va prendre les situations au cas par cas, puisque je le disais, le handicap diffère d'une personne à l'autre. Et de là, faire un temps aussi avec les structures qui accueillent pour voir les possibilités d'accueil sur ces temps-là, puisqu'ils ont aussi leur programmation générale. Voilà.
Alors, j'imagine que les auditeurs qui nous écoutent là maintenant et qui sont directement concernés doivent se poser cette question. Comment ça se passe? Comment on fait si on a un enfant en situation de handicap et que l'on veut avoir cet accompagnement concrètement? Comment on fait là?
Alors, c'est un accompagnement qui est entièrement gratuit, déjà je le précise, puisque c'est un financement qui est par la CAF, l'ARS, le département des Vosges, le Jeunesse et Sport, la MSA, etc., etc., le conseil départemental également. Et donc, du coup, on a juste à prendre contact avec le pôle ressources handicap. Donc, on a un site internet, c'est www.prh88.fr. De là, on a nos contacts. Alors, on peut me contacter moi, on peut me contacter ma collègue. Et puis, on opte pour une première rencontre, alors, qui peut se faire en physique, qui peut se faire au cours d'un rendez-vous téléphonique. Ça, c'est au bon vouloir de la personne.
Ouais.
Et puis, de là, on va élaborer un plan d'accueil pour le jeune, en fonction des besoins du jeune, de la demande des parents également, du secteur géographique. Et puis, ensuite, nous, on se fait la passation avec le centre de proximité, en allant chercher les professionnels qui vont accueillir, en regardant, en prenant un peu la température, si j'ose dire, et puis de là, en voyant quelles adaptations il faut mettre en place ou non. Hein, parce que les centres de loisirs ne nous ont pas attendus pour accueillir des jeunes à besoins spécifiques. Alors
oui,
parfois, il y a des choses qui sont déjà là. Et donc, du coup, si on peut s'appuyer dessus, ben derrière, on met en place une inscription tout à fait classique. Et puis, nous, généralement, on retourne vers la famille aussi après l'accueil pour voir comment ça s'est passé, pour savoir s'il y a des points d'amélioration ou si au contraire tout roule et puis là on leur laisse vivre leur vie.
Ouais. On mettra tous les liens indispensables à cette prise de contact avec le podcast de cette émission, bien entendu. Prochain disque chouchou, alors c'est que des chouchous aujourd'hui, hein. Patrick Watson et l'artiste Solane collaborent ensemble sur ce titre. Ça va, est-ce que tu connais
Je connais Solane,
incroyable.
J'aime beaucoup.
Incroyable.
Ouais,
incroyable. On écoute ça tout de suite, on se retrouve juste après.
Je rêve tout croche, les frustrés laissent la mauvaise journée coller en dessous de nos souliers. Ça roule trop vite pour garder le sens, les bouches ouvertes et les claques sont fortes toujours, pressés pour patienter. Mais ça va. Ça va. m'attrapes, tu m'embrasses, toi vous êtes ma préférée, ça va.
Pour les oreilles, comme on dirait ici avec ce titre. Ça fait du bien, un petit moment de détente là.
Carrément.
Hein ? Alors, la France dépense plus que ses voisins pour le handicap, mais une grande partie du budget reste fléchée vers des institutions fermées. Puis, c'est l'intégration versus l'inclusion, un modèle d'intégration où l'enfant doit s'adapter à son environnement. À un modèle d'inclusion où c'est la structure qui s'adapte, mais j'ai l'impression que c'est très lent. Ou alors, est-ce que ça prend du temps, tout simplement ?
Je pense que ça prend du temps. C'est dû aussi à des questions historiques, notamment on parlait de l'isolement. Alors peut-être que l'image qui vient en tête tout de suite, c'est la question de la contention ou de la médicamentation importante des personnes. Alors je l'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là.
Oui.
Je sais qu'en Italie, par exemple, la prise en charge est tout autre. Bah, il y a eu une fermeture au XXe siècle des hôpitaux, des institutions psychiatriques, avec une prise en charge dans le milieu ouvert et ordinaire, avec des résultats qui, a priori, sont plutôt encourageants. Et puis, je sais aussi que, là, je peux en parler d'expérience sur la question du handicap, la prise en charge, parfois, elle est jugée meilleure, en tout cas par les familles dans les pays limitrophes, avec des prises en charge en Suisse ou en Belgique pour certains enfants, ou j'ai notamment des exemples en tête, hein, où des familles vosgiennes vont parfois faire prendre en charge leur enfant en Belgique parce qu'ils estiment que la prise en charge est meilleure. Quoi.
D'accord, voilà. Ok. Comment ça s'explique, ça ?
C'est une très bonne question. Là pour le coup, j'ai pas de proposition. Je ne suis pas spécialiste du sujet, okay. Je pense que des organisations médico-sociales seraient bien plus à même que moi d'échanger sur le propos. C'est plus un constat que je fais sans apporter pour l'instant l'explication. Et je vois aussi que le médico-social en France fonctionne bien. On a des professionnels quand même extrêmement dévoués sur ces questions-là liées au handicap et liées à l'inclusion. Ouais. Pour revenir sur la question de intégration versus inclusion, je dirais aussi que l'intégration, c'est un petit peu le premier palier, celui vers lequel on va, qui tend à visibiliser le handicap, mais qui fait peser la responsabilité du bon accueil sur l'individu qui serait en situation de handicap. Or, l'inclusion, comme ça a été justement dit, c'est faire en sorte d'adapter l'endroit pour que ça ne se pose plus. Mais en tout cas, on peut noter que depuis plusieurs années, il y a les personnes en situation de handicap sont bien plus visibles dans la société. qu'elle ne l'était auparavant. Et ça vient du fait que effectivement on a quand même tendance à décloisonner.
Oui. Et dans les pays scandinaves, l'accessibilité, elle est universelle. On considère que c'est l'environnement qui est handicapé et pas la personne.
Oui.
Ça, c'est beau.
Je pense que c'est l'étape ultime vers laquelle il faudrait tendre.
C'est incroyable. Tu parlais du médico-social, mais ils souffrent quand même du manque de moyens financiers et humains, quoi.
Oui, ça reste des métiers en tension. On pense souvent à l'hôpital, mais en réalité, le médico-social est logé à une enseigne quand même assez similaire, avec des difficultés de recrutement, des problématiques de moyens à disposition et des besoins importants.
Oui. Alors, ce pôle ressources handicap, il vise aussi à créer un pont entre les sphères médico-sociales et socio-éducatives, ces deux branches qui prennent en charge des enfants en situation de handicap notamment, mais finalement qui ne dialogueraient pas vraiment entre elles jusque-là.
Alors ça, c'était le postulat de base qu'on avait il y a une dizaine d'années avec le collectif 100% loisirs vers un accueil pour tous qu'on avait au Franca. L'idée, c'était quoi? C'était de se dire, OK, il y a une prise en charge qui est faite dans le milieu médico-social. Cette prise en charge, elle prend en compte les besoins des enfants et comment on les fait évoluer sur ces sujets-là. Et il y avait aussi une prise en charge qui avait lieu dans le milieu socio-éducatif, donc les accueils de loisirs, les centres aérés, le périscolaire, etc. Tout le monde était un petit peu dans son couloir et quand bien même les deux prises en charge pouvaient s'entendre, si on ne va pas dans la même direction, quelque part, les effets, on n'a pas le démultiplicateur qu'on aimerait avoir s'il y avait une réelle coopération. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, avec le PRH, on continue évidemment dans cette lignée-là. Nous, on coopère avec deux organismes gestionnaires importants dans les Vosges, que sont l'ADAPI 88 et l'APF France Handicap Vosges. Et de là, on s'appuie à la fois sur des ressources qu'eux, ils ont en interne, nous, sur notre expertise du socio-éducatif, pour proposer justement, j'en parlais plus tôt, de ces questions du sur-mesure sur l'accueil de l'enfant. C'est pareil, il y a un autre point qui est la lisibilité de l'offre sur le territoire.
Oui.
Quand vous avez un enfant en situation de handicap, vous avez plein de choses qui vous arrivent, qui vous tombent dessus, et vous avez alors déjà un accès aux démarches qu'il faut... il faut s'emparer, on va dire, de cet accès aux démarches qui n'est pas simple au demeurant. Et puis derrière, on vous parle de tout un tas de dispositifs, d'institutions qui ont des sphères d'influence ou des périmètres d'intervention divers et variés. Et c'est délicat de s'y retrouver quand on est un parent dont on vient d'apprendre la nouvelle que son enfant est en situation de handicap. Donc cette coopération, elle est bénéfique à tout le monde. Elle est bénéfique pour la prise en charge, elle est bénéfique pour la compréhension et surtout, et c'est surtout ça l'essentiel, elle est bénéfique pour l'enfant ou les personnes concernées.
Oui. Vous êtes satisfait du nombre de personnes qui viennent vous trouver ou vous pensez qu'on peut encore aller plus loin?
On peut toujours faire mieux, mais au regard d'un an et un mois là, de PRH dans les Vosges, on est plutôt satisfait, mais cette satisfaction, elle vient du travail déjà accompli depuis 10 ans sur la question du 100% loisir vers un accueil pour tous. Hein, on avait déjà creusé le sillon, si j'ose dire. Et donc, du coup, là, on est dans une continuité. À titre d'exemple, on a en 2025, donc de avril à décembre, on a vu, on a accompagné 361 professionnels sur les questions de comment est-ce qu'on accueille concrètement un enfant en situation de handicap dans son centre.
C'est bien. On force l'inclusion à l'école, mais les loisirs restent souvent le parent pauvre. C'est ce que j'ai lu. Pourtant, c'est tout aussi vital pour la construction d'un futur citoyen.
Alors, tout à fait. Hein. Je disais qu'on était à portée éducative et ça, je n'en démords pas. Il ne faut pas oublier que les enfants, si aujourd'hui ce sont bien évidemment des enfants de 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, un jour ils seront adultes. Je parle aussi bien des enfants dits valides que des enfants en situation de handicap. Or, quand ils seront adultes, quelle société on veut qu'ils aient, ces enfants? Est-ce qu'on veut une société où le handicap il est invisibilisé et donc du coup ça crée de la souffrance et des problématiques sociales qu'on connaît bien aujourd'hui? Ou au contraire, on a le camarade dans sa classe qui a son handicap et qui participe comme nous au cours, dans la limite du possible parfois dans certains cas, mais qui aura les compétences progressivement, de par son accompagnement dans le socio-éducatif et dans le médico-social, à prendre un ticket de bus, à acheter une place de cinéma, à louer un appartement, à trouver un travail. Dans son travail, il aura des collègues. Ses collègues, certains seront peut-être en situation de handicap et d'autres valides. Et c'est personnellement, en tout cas, la société dans laquelle j'aspire à vivre, une société où la différence est normalisée.
Oui. Le taux de chômage des personnes handicapées, il serait deux fois supérieur à la moyenne nationale. Donc toi, tu espères que cette prise en charge dès le plus jeune âge pourrait changer les choses, quoi.
Oui, et puis ça tendra à une société plus inclusive. Aujourd'hui, on a des quotas qui existent dans les entreprises pour avoir du personnel en situation de handicap. Le monde idéal, c'est quota, on ne se pose même plus la question. Un salarié à compétences égales et à capacité égale va faire le travail qu'on lui demande, ou alors on adapte le poste, ou en tout cas, la productivité n'est pas au centre du projet de société, mais bien l'inclusion et l'épanouissement de chacun des citoyens. Ouais.
Alors j'ai trouvé ces chiffres, tu pourras peut-être les rectifier au besoin. Tu es mon expert aujourd'hui. Environ 12 millions de Français seraient touchés par un handicap, soit une personne sur 6, et 80% de ces personnes seraient touchés par des handicaps invisibles. Oui. Et voilà, comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est
on est dans ces sphères d'individus-là, effectivement. 80% de handicaps invisibles, donc on est bien loin de l'image d'Épinal, si j'ose dire, de la personne dans son fauteuil. Et puis, sur la question du nombre de personnes en situation de handicap en France, il ne faut pas oublier qu'on se base souvent sur des chiffres administratifs. Oui. À savoir, vous avez un dépôt à la MDPH qui, elle, peut comptabiliser. Mais pour toutes les personnes à la MDPH, combien ne le sont pas ?
Oui,
il y a un certain nombre de personnes qui vont compenser leur handicap parce qu'elles sont jeunes. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas accès aux démarches, qui ont des difficultés à remplir un dossier MDPH. Il y a un certain nombre de personnes qui ne souhaitent pas faire ces démarches.
Oui.
Il y a un certain nombre de personnes ne sait pas qu'ils sont en situation de handicap. On peut parler de l'autisme.
Ouais.
On a eu pendant longtemps un creux sur le dépistage de l'autisme, notamment chez les jeunes filles, pour des questions de biais sexistes, en fait, dans la médecine, où un petit garçon était plus souvent diagnostiqué qu'une petite fille. Aujourd'hui, ça tend à se rétablir très largement.
Tu sais que j'ai vraiment entendu ce témoignage-là, quelqu'un qui voulait se faire diagnostiquer, et en fait, on lui a dit « tu peux pas être autiste parce que t'es une fille
». Et bien, malheureusement, il y a encore certains stéréotypes ancrés, a priori.
Mais c'est incroyable, c'est quoi cette histoire ?
Ces biais sexistes amenaient, alors moi, c'est des témoignages que j'ai pu lire ou entendre de personnes que je côtoie, qui m'explique que quand on est une jeune fille, parfois le médecin, qui pendant longtemps était un homme, ça tend évidemment aussi à changer de ce côté-là.
Oui.
Une petite fille, c'est dans la lune, alors il ne faut pas s'en faire,
voilà,
ça viendra. Et un petit garçon, ça c'est un peu différent, on peut plus vite comprendre, plus vite cerner. Bon, voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, ça c'est quand même théoriquement plutôt de l'histoire ancienne, de ce que j'en comprends. Là, je parle de témoignages de personnes qui ont grandi plutôt dans les années 80.
Okay.
Et ça a amené une petite bosse dans les diagnostics TSA, me semble-t-il, au détour des années 2000-2010, notamment chez les femmes qui se faisaient diagnostiquer autour de 30-40 ans.
Ouais. Et TDAH aussi, c'est une grosse problématique de prise en charge, là.
Oui, tout à fait. Le TDAH, je pense que... Alors, le trouble du spectre autistique et TDAH rentrent tous les deux dans ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, qui est aujourd'hui, on va dire, la grande catégorie qui préoccupe les professionnels, en tout cas, dans l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel il faut... informer beaucoup.
Oui. Le handicap, on en parle aussi au cinéma en ce moment, par exemple, avec l'incroyable histoire d'amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres, et de Susanna, une femme qui va lui redonner l'énergie, la possibilité d'avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. Est-ce que tu as été voir ce film ?
J'ai pas été voir ce film, mais c'est tiré d'une histoire vraie.
Oui, c'est une histoire vraie. Est-ce que ce genre d'histoire racontée au grand public ouvrirait l'esprit sur la situation pour une prise de conscience collective et enfin lever ces tabous sur le handicap ?
Ça contribue à visibiliser le handicap puisque alors il y a eu le carton Intouchable il y a quelques années, il y a eu un petit truc en plus, il y a ce nouveau film-là qui sort. Évidemment, le handicap, ça touche tout le monde, en réalité, directement ou indirectement. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la famille, dans les proches, à l'école, on peut toujours croiser des personnes en situation de handicap. Le fait d'avoir des films qui mettent en lumière les problématiques induites par le handicap, c'est forcément une bonne chose, puisque ça permet peut-être pour certains de conscientiser un peu mieux ce que ça induit d'être en situation de handicap.
Ça ne suffit pas, mais c'est quand même ça.
C'est encore une fois une pierre à l'édifice.
Voilà. Prochain disque chouchou avant de se quitter doucement et de vous laisser sur la suite des programmes sur Radio Gemozo, Tokyo Kiss d'Arthur H. Et on se retrouve juste après.
I lost my name in a Tokyo Kiss. My name
Sur Radio Game Ozo, un petit coup de good vibes. Moi, j'aime beaucoup ce son. À la rentrée 2025, on dénombrait 140 000 accompagnants AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap en France, en milieu scolaire. C'est le deuxième métier de l'éducation nationale, très précaire d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Mais beaucoup d'enfants restent encore sans solution de transport ou d'accompagnement sur les temps hors école.
Ouais. Voilà, c'est ce que typiquement, tu disais tout à l'heure. Les AESH ne sont pas... déplacés sur le temps extrascolaire.
Ouais.
Sur le temps périscolaire, ça tend à bouger puisqu'on a désormais la loi Vial qui permet, lorsqu'il y a une AESH attribuée à titre individuel à un enfant, de l'accompagner sur le temps méridien. C'est une excellente avancée.
Ah, génial.
C'est quelque chose qui n'est pas encore connu partout, mais ça tend quand même maintenant à être bien identifié par les professionnels. Mais ça permet un accompagnement humain supplémentaire sur les temps de cantine puisque, comme je le disais, la journée de l'enfant, elle est à prendre dans sa globalité, ce qui a bien été pris en compte par l'éducation nationale.
Ouais.
Et là-dessus, nous, on travaille même à l'échelle départementale très bien avec le service de l'éducation nationale École Inclusive, avec Madame Dacosta. Et ça fonctionne à merveille. On arrive à travailler des articulations entre journée temps scolaire et hors temps scolaire sur ce temps méridien.
Tant mieux. Ici, on est en milieu rural, la ruralité, gros mot de ces dernières années. Est-ce que ça ramène une problématique supplémentaire quand on est parent d'enfants en situation d'handicap ou... en situation de handicap, tout simplement.
Ouais, ça ramène plusieurs problématiques. Hein. La première, c'est l'accès aux soins.
Ouais.
L'accès aussi à un parcours de dépistage et de diagnostic. Les temps sont un peu plus longs dans les Vosges qu'ils ne le sont dans les départements limitrophes que sont la Meurthe-et-Moselle ou en Alsace.
Ouais.
Donc ça, c'est une première problématique. Il y a la problématique de la mobilité aussi. Tu évoquais en introduction la question de la mobilité des jeunes via le pass Interrail. Voilà.
Ouais.
Bon, on sait que c'est un gros point, la mobilité en milieu rural. Et notamment lorsqu'on fréquente un établissement spécialisé, les trajets se font... la plupart du temps en taxi.
Oui, c'est vrai.
Donc avec quelqu'un qui vient chercher l'enfant à domicile et qui l'emmène ensuite, par exemple, à l'IME. Et ça, c'est un système qui fonctionne relativement bien, mais on a parfois quelques cas, bon, c'est minoritaire, dans les Vosges, de taxis qui ne font pas jusqu'au domicile de l'enfant. Et c'est à la famille de prendre en charge cette problématique de mobilité supplémentaire en amenant l'enfant le matin sur un axe un peu plus proche ou ce genre de choses.
D'accord.
Donc ça crée des disparités de traitement entre personnes, on va dire, dans l'extrême ruralité et des personnes qui, elles, seraient plus proches de centres urbains, même moyens, qu'on trouve dans les Vosges. Quoi.
Et puis touchées par la précarité aussi, parce que si on n'a pas de voiture soi-même...
Tout à fait, voilà, il y a la question de la mobilité des familles en tant que telle aussi. Si on n'a pas de voiture soi-même, et parfois avoir une voiture ne suffit pas, parce qu'il y a la nécessité d'avoir une voiture adaptée, avec des équipements supplémentaires. Et lorsque ce n'est pas le cas, ça pose des réels freins, en fait, à l'inclusion, ou à l'accueil, ou à la prise en charge.
C'est quoi ton grand rêve, toi, ton utopie concernant ce sujet ?
Du handicap au sens large ?
Ouais.
Moi, j'espère qu'à terme, on aura une société qui sera plus inclusive, où on permettra à chaque enfant de s'épanouir au même titre, enfin, chaque enfant en situation de handicap, de s'épanouir au même titre que tous les autres enfants. Parce que je sais que beaucoup de choses se jouent dès l'enfance et que si on a une représentation plus ancrée dans le réel tôt, dans son enfance, on a une capacité à être plus tolérant au fil de l'eau. Et cette tolérance-là, elle ne peut amener que du bon dans la société parce que, j'en parlais un petit peu plus tôt, mais si on visibilise la différence, qu'on la normalise en quelque sorte, eh bien, je pense que ça ne peut apporter que de l'apaisement social. Et je pense que c'est quelque chose qui serait le bienvenu en ces temps.
On dit que c'est les 7 premières années de l'enfant qui sont cruciales pour un bon développement psychologique, un environnement sécurisant, etc.
C'est capital, les premières années de l'enfant, mais après, l'éducation, elle se fait aussi tout au long de sa vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez 50 ans, vous pouvez pas changer d'avis sur un sujet.
On n'a pas dit
mais effectivement, les 7 premières années de vie, alors j'avais pas forcément 7 en tête, mais je sais que les premières années de vie sont des moments où on se construit au regard de l'autre, on se construit personnellement, et puis on tâtonne, on cherche sa place. Et c'est aussi un des formidables points qui est développé dans les accueils collectifs de mineurs, périscolaires, extrascolaires, etc. C'est qu'on rencontre de la différence. On voit des camarades, des collègues qui sont différents. Et cette différence-là, ça apporte de la richesse.
On a avancé sur ce sujet de la discrimination.
On a avancé. Les sujets ont évolué sur la question de la discrimination. Alors, il y a toujours des discriminations. Ça, c'est un puissant fond, j'ai l'impression.
Ouais,
mais
ouais.
En tout cas, on œuvre pour que ça soit toujours plus inclusif et toujours plus tolérant. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés au sein des accueils collectifs de mineurs qui sont... et c'est clairement dans le viseur aussi des politiques publiques, d'agir, je pense notamment à la DILCRA, d'agir en faveur d'une société plus tolérante.
Bah heureusement, merci beaucoup à tous ces organismes en tout cas. On peut retrouver dès maintenant toutes les informations nécessaires sur ce dont on a parlé aujourd'hui, le pôle
Ressources handicap
88 sur le site internet, donc www.prh88.fr tout simplement.
Exact.
Merci beaucoup Pierrick d'être venu me
rejoindre. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
Oui, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite ?
Plein de bonnes choses.
Voilà. C'est assez vaste hein, ça, mais plein de bonnes choses, c'est entendu. Cette émission sera rediffusée lundi prochain, car quand on aime, on ne compte pas. Elle sera également podcastée très prochainement sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors, j'ai parlé du site internet, mais on peut aussi vous retrouver, vous, les Francais des Vosges, sur
Facebook.
Les réseaux.
Ouais. Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Auditeurs, je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Guémozo. En attendant, c'est comme à chaque fois, tu prends bien soin de toi et tu prends soin des autres. Allez, kiss.